Vous écoutez Le Chantier.
Merci d'être là.
Il est 8h.
On est très contents.
Le Chantier.
Je sais pas vous, mais j'ai une patate, moi, ce matin.
Tous les vendredis matin, 8h-9h, la matinale du chantier avec Emma Delaunay.
C'est la promesse d'une belle journée et la perspective d'une soirée enfin. Et...
Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 25 juin, bienvenue dans la matinale du chantier, au programme de la bonne musique et des interviews. À 8h20, on sera en compagnie de Laura Bossé, fondatrice du tiers-lieu La Goguette. Nous recevons également la journaliste Alice Coffin, on la retrouve aux alentours de 8h30. Et notre invitée culture aujourd'hui, il s'agit de Léa Zelenkowskis, chargée de communication au festival EuropaVox. Et d'ailleurs, pour vous plonger dans l'ambiance de cet événement, pour vous préparer un peu à ce qui va se passer sur le festival ce week-end, on vous a concocté une playlist aux couleurs de l'événement. Un petit exemple pour vous donner l'eau à la bouche, on écoutera du très bon hip-hop avec Dabrek qui nous vient de pas si loin puisqu'ils sont de Lyon. Et qu'est-ce qui nous attend encore? Et bien de plus connu, il y a la femme mais aussi l'impératrice. Alors est-ce que j'ai encore besoin de vous convaincre? Allez, on se retrouve juste après le journal de RFI.
Bonjour à tous. Pas de sommet avec Vladimir Poutine. Les dirigeants européens n'ont pas réussi à se mettre d'accord hier à Bruxelles sur une éventuelle rencontre avec le président russe.
La volonté de la France et de l'Allemagne s'est heurtée au refus de plusieurs autres membres. La Russie a multiplié les actions agressives envers les Européens ces derniers mois. On fait le point dès le début de ce journal avec notre correspondant. Au Canada, 750 tombes anonymes découvertes près d'un pensionnat où étaient placés des enfants. Fonds autochtones, de quoi raviver un douloureux passé. Des milliers de jeunes métis et inuits ont vécu un calvaire dans ces institutions. Dans ce journal également, le Sri Lanka où 16 détenus liés aux anciens rebelles tamouls ont été graciés. Le lancement d'un programme de gestion des déchets au Sénégal et puis la finale du top 14 en France, La Rochelle-Toulouse, c'est du rugby. Les dirigeants des 27 réunis depuis hier à Bruxelles. Au menu de ce sommet européen, la question migratoire, la pandémie de Covid-19 et la propagation des variants en Europe, mais aussi la posture à adopter vis-à-vis de la Russie. Pierre Benazet, vous êtes notre correspondant à Bruxelles. Hier, les dirigeants européens ont recalé l'idée d'un sommet avec le président russe, Vladimir Poutine, idée portée par la France et l'Allemagne dans une volonté de relancer le dialogue avec Moscou.
Effectivement, et on a bien senti chez Angela Merkel une part de déception relative après le long débat nocturne sur la Russie. L'idée de rencontrer directement Vladimir Poutine, c'était une des propositions franco-allemandes, même s'il n'y avait pas de format bien défini. Soit des rencontres de plusieurs chefs d'État, soit des sommets comme jusqu'à 2014 avec les dirigeants des institutions européennes. Mais cette idée divise les 27 parce que plusieurs jugent qu'une telle rencontre est prématurée. La proposition franco-allemande a malgré tout reçu le soutien des autres capitales sur l'idée d'émettre, si nécessaire, des sanctions économiques contre des secteurs entiers de l'économie russe qui a été adoptée cette nuit. C'est un changement d'attitude radical pour l'UE et pour l'Allemagne après des années où les seules sanctions européennes émises l'étaient contre des individus. Mais pour les Européens, la relation avec Moscou est au plus bas et elle est même en train d'empirer, si on en croit les propos de Josep Borrell, le chef de la diplomatie européenne.
Et Pierre, les chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne ont également abordé la loi homophobe récemment adoptée par le Parlement hongrois. Ils ont rappelé à l'ordre Viktor Orban.
Effectivement, et cette discussion au sujet de la loi hongroise sur la promotion de l'homosexualité pour les mineurs, ça a été un moment d'explication franche, selon l'expression diplomatique, pour dire que la controverse a été vive, pas à 26 contre 1, car la Hongrie est soutenue en particulier par la Pologne, mais le ton a vraiment chauffé après la lettre de 17 pays d'Europe de l'Ouest et du Nord pour soutenir la diversité face à un Viktor Orban qui n'en dément pas et qui estime que sa loi a été votée et qu'elle sera appliquée.
Pierre Benazet en direct de Bruxelles. En France, à deux jours du second tour des élections régionales, la campagne bat son plein, en particulier dans les Pays de la Loire, susceptible de basculer à gauche dimanche. Une gauche unie derrière l'écologiste Mathieu Orphelin qui a reçu le soutien de plusieurs poids lourds politiques hier. Reportage à Nantes d'Aurélien Devernois.
Il y a un écolo sympa là, regardez.
Oui, bah, j'espère. Oui, faut,
C'est nous qui mettons de la nature partout.
Yannick Jadot s'emploie pour convaincre cet électeur abstentionniste croisé dans la rue. Tract à la main, le député européen écologiste donne de la voix.
Allez, allez voter dimanche.
À ses côtés, le patron du Parti Socialiste, Olivier Faure, venu lui aussi apporter son soutien à la tête de liste de la gauche unifiée, Mathieu Orphelin.
Merci d'être là, Olivier. Yannick, on s'est vu tout à l'heure.
C'est l'équipe qui gagne qui est là aujourd'hui?
Oui, c'est l'équipe rassemblée. C'est ce que nous disent les gens depuis lundi sur le terrain.
On est content que vous soyez ensemble. Enfin.
La photo de famille est en effet belle. L'ancien Premier ministre socialiste Jean-Marc Ayrault est venu en voisin, tout comme la maire PS de Nantes, Johanna Roland. Car une victoire dans la région et le sort de la gauche en serait bouleversé. Olivier Faure en est persuadé.
Vous pouvez dimanche soir être un symbole extraordinaire. Appelez-le comme vous voudrez, arc-en-ciel, rouge, rose, vert. Un avenir tout simplement où une coalition peut se construire.
Dans l'assistance, Dominique ressent un brin de fierté pour sa région.
Toute la France nous regarde. J'espère, dimanche soir prochain, on servira vraiment un modèle pour toute la France et qui sera très profitable pour l'année prochaine.
Un modèle qui gagne pour aspirer la gauche à la présidentielle. Ici, en tout cas, tout le monde y croit.
Bon les cœurs, ensemble, on va gagner dimanche.
Un reportage signé Aurélien Devernois à Nantes. Au Canada, cette nouvelle découverte macabre. Plus de 750 tombes anonymes ont été localisées près d'un ancien pensionnat dans l'état de Saskatchewan. C'est la deuxième découverte de ce genre en moins d'un mois. En mai, les restes de 215 écoliers enfouis près d'un autre établissement avaient été mis à jour. Pendant près d'un siècle, jusque dans les années 90, des enfants autochtones étaient envoyés de force dans ces structures gérées par l'Église catholique, éloignées de leur famille et de leur culture. Un crime contre l'humanité pour le chef de la Fédération des Nations Autochtones souveraine de la Saskatchewan. C'est là, dès la première découverte, hein, des experts de l'ONU avaient demandé au Canada de faire toute la lumière sur ce qui s'est passé dans ces établissements et parmi eux, Fabienne Salvioli, le rapporteur spécial de l'ONU sur la promotion de la vérité et de la justice. Il réclame une enquête sérieuse.
C'est évident, c'est clair qu'il y a eu presque une forme systématique dans ce type de bâtiment. Les rapports de la Commission de la vérité démontrent des violations contre les enfants. Même si on pense les droits à la propre culture, la politique d'assimilation, la perte des relations avec la communauté, des mauvais traitements, divers types d'abus, et aussi on ne sait pas exactement les motifs des décès. C'était des enfants. C'est un nombre énorme. Les autorités de ces institutions n'ont voulu fournir aucune information à la famille et aussi à la communauté. C'est vraiment grave. Il faut une enquête sérieuse et pleine et aussi des excuses, fournir des réparations aux familles et à la société des victimes et aussi de prendre des mesures de non-répétition. L'Église doit avoir des archives. Il peut avoir des responsables encore en vie. Il faut les juger, évidemment.
Des propos recueillis par Lucille Gimbert. Au Sri Lanka, 16 détenus liés aux anciens rebelles tamouls ont été graciés. Ils étaient emprisonniers depuis au moins 10 ans. Le gouvernement a indiqué qu'il y aurait peut-être d'autres libérations. La semaine dernière, l'ONU avait encore rappelé Colombo à l'ordre sur ces détentions sans inculpation. Des détentions en vertu d'une loi antiterroriste encore durcie en mars dernier qui, selon les défenseurs des droits de l'homme, viserait tout opposant au gouvernement. Les précisions de Christophe Paget.
Précision de l'administration pénitentiaire, la plupart des 16 personnes libérées en étaient à la fin de leur peine. Mais selon le gouvernement, ces grâces accordées par le président Rajapakse, les premières depuis son arrivée au pouvoir pour des détenus liés aux rebelles tamouls, constitueraient le début d'un plan de libération de tous les prisonniers détenus, parfois sans inculpation, en vertu de la loi antiterroriste. Une loi dont le Conseil des droits de l'homme de l'ONU a encore demandé la semaine dernière l'abrogation. Elle serait en fait principalement utilisée pour enfermer militants des droits de l'homme, opposants politiques et minorités religieuses. Mais sur ce point, pas d'avancée. Même chose pour une demande récurrente de l'ONU au gouvernement de Colombo, que les responsables présumés des crimes commis pendant les 37 années de guerre civile rendent des comptes. Mais l'actuel Premier ministre Mahinda Rajapakse dirigeait le Sri Lanka quand l'armée a écrasé dans le sang la rébellion en 2009. Elle aurait tué 40 000 civils tamouls. Son frère est l'actuel président Gotabaya Rajapakse. Il a été élu entre autres sur la promesse de ne pas poursuivre les militaires. Et si son prédécesseur avait lui promis la justice pour les tamouls, il n'en a rien fait non plus.
En précision signée Christophe Paget. En Chine, 18 morts dans l'incendie d'une école d'arts martiaux dans le centre du pays. La plupart des victimes sont des élèves de cette école âgés de 7 à à 16 ans au Sénégal face au défi colossal de la gestion des déchets, le PROMOGED, le projet de promotion de la gestion intégrée de l'économie des déchets solides, a été officiellement lancé hier à Mbeubeust, la décharge géante dans la commune de Malika en banlieue de Dakar. Première étape d'un vaste programme financé par l'État et les bailleurs pour améliorer la salubrité publique. À terme, ce projet vise à créer 150 infrastructures de traitement des déchets dans plus d'une centaine de communes. À Dakar, Charlotte Hydrac.
C'est une décharge à ciel ouvert aux portes de Dakar. Le site de Mbeubeust, ouvert en 1968, est devenu un enfer écologique et sanitaire. Avec le PROMOGED, elle sera assainie et réhabilitée progressivement. Le maire de la commune de Malika, Talaga Diaga.
La décharge cessera d'être une source de menace pour devenir une niche d'opportunité.
Mbeubeust, puis à terme les régions de Thiès, Saint-Louis, Matam, Ziguinchor, Sédiou et Kolda doivent être couvertes par le PROMOGED. Coût total, environ 314 millions d'euros, soit 206 milliards de francs CFA, dont 163 milliards financés par les bailleurs, Banque mondiale, Coopération espagnole, Banque européenne d'investissement et Agence française de développement. Objectif affiché par le président Macky Sall, un Sénégal zéro déchet.
Le PROMOGED devra ainsi contribuer à l'éradication des décharges sauvages, néfastes pour l'environnement, la santé des populations, les activités économiques, économique et l'attractivité de nos cités.
Un projet ambitieux qui suscite aussi des inquiétudes. Dans une tribune, la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal et l'ONG Ouego appellent à un processus plus inclusif et transparent pour protéger les quelques 2000 récupérateurs qui travaillent dans la décharge de Mbeubeust. Charlotte Hydrac, Dakar, RFI.
La Rochelle-Toulouse, c'est l'affiche de la finale du top 14, le championnat de France de rugby ce soir au Stade de France. Deux équipes qui s'étaient déjà affrontées en finale de la Coupe d'Europe remportée par les Toulousains il y a un mois. Une affiche a priori équilibrée, Cédric De Oliveira.
D'un côté, La Rochelle et sa première finale de championnat de France. De l'autre, le Stade toulousain et son palmarès éloquent. 20 trophées et pour la 29e fois en finale. Les Rouges et Noirs viennent en plus de remporter la Coupe d'Europe tout en dominant leurs adversaires trois fois cette saison. Mais pour leur entraîneur Hugo Mola, ils ne partiront pas favoris.
Les trois victoires sont des victoires marquantes. Alors le côté psychologique, au regard de la demi-finale de La Rochelle et de la nôtre, il y a une équipe qui a paru un peu plus fringante et qui a en tout cas maîtrisé son adversaire direct beaucoup plus facilement. Mais moi je pense pas que ce soit du 50-50, je pense qu'on est bien loin derrière.
Manœuvre malicieuse pour mettre la pression sur un adversaire novice mais auteur d'une saison magnifique. Les Rochelais ont les moyens de perturber la machine à gagner toulousaine, d'autant qu'Antoine Dupont et ses coéquipiers seront privés de leur habituel numéro 10, Romain Tamac.
Ça sera différent, mais tout au long de cette saison, malgré les blessures, malgré les absences, tous ceux qui ont été amenés à devoir répondre présent l'ont fait et l'ont plus que bien fait.
Ntamak forfait après avoir été victime d'une commotion cérébrale en demi-finale. En revanche, le Sud-Africain Cheslin Kolbe sera bien là pour aider Toulouse à signer un historique doublé Coupe d'Europe championnat.
Cédric De Oliveira du service des sports de RFI. À 7h12 à Paris.
C'était le journal de RFI. Dans quelques instants, l'album du chantier, celui de Animal Triste. D'ailleurs, ils reviennent pour nous sur le morceau d'Arquette, morceau d'ouverture de ce dernier album.
D'un point de vue très personnel, c'est le riff de ma vie. Ce riff, c'est mon pseudo de National Army à moi. Ça part d'un riff, ça part d'une chanson que j'avais soumise aux autres membres du groupe il y a de ça quelques mois, voire presque années, qu'on avait dans un coin de notre tête, de nos disques durs respectifs. Et c'est en studio, on s'est dit, mais au fait, cette chanson-là, qu'est-ce qu'on en fait? Et on a exhumé la démo, et elle l'a fait d'unanimité, et c'est pareil, cette chanson s'est retrouvée au bon endroit, au bon moment. On l'a enregistrée très, très vite. On avait juste le riff, et Yannick a posé sa voix. On a tous greffé nos instruments, et du coup, on a ouvert l'album avec. Ça nous permettait aussi de poser le tableau général, la couleur de l'album, à savoir, oui, ça ne va pas être très tropical et très ensoleillé comme musique. On va faire pencher ça vraiment du côté ombragé du rock.
Tous les vendredis matins, 8h-9h, la matinale du chantier avec Emma Delaunay.
De la soul, de la bonne humeur et des boucles entêtantes qui résonnent en clin d'œil à l'âge d'or du hip-hop. C'était Dabrek avec le titre Shine, Dabrek groupe lyonnais qui sera donc à Europavox ce dimanche. La suite sur le chantier, c'est l'heure de l'invité. Déjà là, on retrouve donc Souil Abouab et son invité Laura Bossé du tiers-lieu La Goguette.
Bonjour, vous êtes à l'écoute du chantier. Les tiers-lieux sont des endroits physiques pour faire ensemble grâce à des ateliers partagés où les participants tissent des liens. À quelques pas de la gare de Clermont-Ferrand, le 61 avenue de l'Union soviétique abrite un tiers-lieu, celui de la Goguette. Depuis un an, en plus d'être une cantine, la Goguette propose de nombreuses activités ludiques et instructives en lien avec les acteurs locaux. Pour nous parler de ces nouveaux lieux, nous avons invité Laura Bossé, fondatrice de la Goguette. Bonjour Laura Bossé.
Bonjour.
En ce qui concerne la Goguette, pourquoi en avez-vous fait un tiers-lieu ?
Le but, c'était vraiment de créer un espace où les gens puissent se rencontrer de nouveau et puissent se sensibiliser à l'éco-responsabilité. Le tiers-lieu, ça permet de mélanger différentes activités au sein d'un même espace, tout en parlant d'une même thématique, et ça permet du coup de faire rencontrer des univers différents. Donc c'est pas qu'un restaurant, c'est pas qu'un café, c'est pas qu'un atelier bois, c'est pas qu'un espace numérique. On essaie justement de goupiller toutes ces activités pour que les personnes qui soient sensibles à une des thématiques puissent rencontrer les autres.
Et qu'est-ce qui vous a inspiré ce projet ?
Eh bien écoutez, pour le coup, c'est vraiment Jonathan qui est cofondateur du projet qui a eu ce rêve-là au tout début, cette sensibilité aussi. On est tous les deux de famille fermière, donc du domaine paysan. Et pour le coup, lui, il a vraiment le côté imaginaire, rêveur. Et il a réussi à projeter tout ça dans un espace, dans un tiers-lieu, où on parlait de l'ensemble des thématiques actuelles.
En quoi la Goguette se différencie-t-elle des autres tiers-lieux ?
Alors, je pense que chaque tiers-lieu défend une thématique bien précise. Sur le territoire clermontois, il y en a des super déjà présents et avant qu'on existe, donc notamment l'Utopie, le Grain, le Café des Augustes. Donc chaque espèce a sa propre cause, entre guillemets. Le nôtre, ça va être vraiment être un projet urbain où on a quand même assez grand espace et où on peut faire autant des moments de rencontre, donc scène vivante, scène artistique, projection, documentaire, autant des ateliers grâce à ce qu'on a aussi sur place, donc atelier bois, artistique, on a un réparateur de vélo aussi sur place et on a du coup ce point convivial qui est la cour où se passent des transitions entre les activités et où les gens peuvent venir boire un verre de manière plus conviviale et festive aussi au sein de cette espèce.
1800 tiers-lieux ont été recensés depuis 2018. Pourquoi d'après vous y a-t-il autant d'engouement pour ces lieux ?
Ces dernières années, c'est vrai qu'on a vraiment besoin d'espaces de rencontre. L'aspect social est assez important dans nos villes, mais pas que, dans les zones rurales. Et le but, c'est aussi d'avoir des espaces où on se sent dans un espace transitoire, en fait. Quand on rentre de la maison ou quand on va faire des activités, on a besoin d'avoir un espace qui nous parle, où on se sent aussi en adéquation avec le projet. Du coup, je pense que voilà, cette dynamique-là, elle apparaît dans plein de métropoles, notamment où on était à Paris avant. Il y a plein de tiers-lieux qui se sont créés, à Lyon aussi, à Clermont-Ferrand. C'est pas quelque chose de nouveau. C'est plutôt quelque chose où on sent les citoyens avoir envie de se retrouver dans un espace un peu plus convivial, on va dire, que des espaces voilà, typiques de bars, cafés, etc.
Et que pensez-vous de ce phénomène en pleine expansion ?
Que c'est chouette. C'est bien d'avoir des espaces de rencontre ou aussi d'expérimentation, parce que c'est aussi ça l'enjeu du tiers-lieu, c'est de se dire que c'est des phases transitoires où ça permet de mettre en avant aussi d'autres acteurs du territoire, notamment là, clermontois, et de montrer, parce que avoir un espace, c'est assez compliqué quand on est un associatif ou militant citoyen ou rien que résident d'un quartier, un lieu d'expression, c'est assez important. Donc je pense que c'est un bel engouement et que c'est une nouvelle phase de conception d'espace. Ouais.
Le conseil des tiers-lieux est composé par des représentants, que ce soit de l'économie, de la culture, du numérique, de l'éducatif et de l'enseignement supérieur, ainsi que de l'associatif. Quels sont leurs rapports respectifs ?
Leur rapport, du coup, ça montre à quel point en fait, un tiers-lieu peut être composé de différentes variantes. Il y a autant de choses qui peuvent être sur la phase plus moderne d'activité, par exemple le numérique, etc. Ça en permet de sortir de l'entre-soi sur une seule thématique. Et c'est ça l'enjeu d'un tiers-lieu. Chacune va apporter sa vision sur la conception de cet espace-là. Et donc, du coup, ça permet vraiment de créer un espace plus riche et plus alerte des envies des personnes qui occupent ces espaces. Donc, chacun doit apporter un peu sa pierre à l'édifice. Nous, on le voit aussi, on fait pas mal de ponts, par exemple, entre la partie artisanat, qui est quand même quelque chose de manuel, ancienne, c'est des compétences et des apprentissages qu'il y a depuis des dizaines d'années, et la partie numérique, découpe laser, imprimante 3D, où là on sent qu'en effet c'est quelque chose de plus dans l'air du temps, et l'enjeu c'est de faire des ponts entre ces deux aspects-là.
Pour revenir à votre programmation, vous avez initié le programme Nouveaux lieux, nouveaux liens. Ce programme interministériel vise à proposer aux citoyens de nouvelles activités entièrement équipées en numérique. Pouvez-vous nous expliquer en quoi consistent ces activités ?
Alors, on n'a pas fait ce programme. On a par contre on a des choses qui soient en lien avec le numérique, mais on n'a pas ce programme sur le lieu.
Dans les tiers-lieux, la clientèle est de tout âge et de tout horizon. Comment faire pour proposer une programmation intergénérationnelle ?
Le but, c'est vraiment d'essayer de concevoir des activités qui puissent convenir à différentes type de population et le faire soit via des partenariats, notamment avec des écoles, c'est le cas le plus classique, où en fait les écoles du quartier sont en besoin d'activités, en périscolaire notamment, et ça c'est un point d'accès. Les autres, ça va être essayer d'avoir une programmation et un emploi du temps où les personnes peuvent se retrouver, enfin puissent se croiser. Et donc du coup, il y en a où on va avoir vraiment un intérêt intergénérationnel sur le bois par exemple ou sur la paysannerie et d'autres un peu moins. Et là, l'enjeu, c'est aussi de comment on arrive à communiquer, parce que les canaux de communication ne sont pas les mêmes et ça ne cible pas du tout les mêmes personnes finalement. Donc c'est pour ça qu'on essaie d'être présent autant sur les réseaux sociaux, ce qui est là l'enjeu où finalement tout le monde est connecté, mais aussi sur de la presse plus traditionnelle, sur un site internet, sur l'affichage physique et sur du bouche à oreille. Donc on croit beaucoup aussi dans les enjeux du quartier à être en contact avec la maison de quartier, les commerçants, voilà, il y a quand même beaucoup de personnes à fédérer et de manière différente. Et ça, c'est aussi l'enjeu principal.
Est-ce que le public peut proposer des activités ? Est-ce que vous l'encouragez à prendre des initiatives ?
Alors oui, il y a un petit onglet sur le site internet. Donc si les personnes ont envie de proposer une activité qui soit dans l'ADN du projet, bien entendu, elles peuvent nous écrire, nous proposer soit des idées, parce qu'elles ont la connaissance, soit des idées qu'elles aimeraient avoir plus tard. Et nous, on essaie de trouver les personnes intervenantes qui pourront animer ce projet-là. Il n'y a vraiment aucun problème. On essaie de répondre à tout le monde. Donc, on a pas mal de sollicitations. C'est super. D'ailleurs, merci beaucoup. Là, c'est vrai que l'enjeu, c'est vraiment d'essayer de proposer l'espace aussi pour tout le monde. Donc, on essaie d'être équitable. Mais au contraire, avec grand plaisir, si des personnes sont intéressées pour animer des choses et faire connaître leur cause, c'est aussi l'enjeu du lieu.
Ce sont aussi des lieux qui valorisent le rapprochement et la convivialité entre citoyens. Mais est-il accessible à tous les citoyens ?
Oui, alors que ça soit dans l'échelle de prix. Donc, par exemple, les activités sont soit proposées gratuitement, soit proposées à prix libre. On croit beaucoup en cette dynamique-là. C'est-à-dire que nous aussi, on sensibilise, par exemple, s'il y a des matériaux, au coût des matériaux, etc. Et après, de manière naturelle, le public va donner soit 1 ou 2 euros de plus pour vraiment être solidaire du lieu, soit juste le prix des matériaux. C'est vraiment à chacun. Et après, sur la partie vraiment cantine-bar, on a une amplitude de prix qui permet d'être assez inclusif sur la population.
Quelles sont les limites et les freins inhérents au tiers-lieu ?
Dans la plantation d'un tiers-lieu, je pense que c'est pas encore assez dans le commun. Donc c'est vrai que nous, on a eu plusieurs freins au démarrage parce qu'on était quand même sur quelque chose d'innovant. Ça n'existait pas. Et le but d'un lieu de ce type-là, c'est aussi dynamiser des quartiers. Et nous, on croit beaucoup dans le quartier de la gare. Mais c'est vrai qu'il y a des problématiques qui sont un peu automatiques. Par exemple, la place où se garer, ce genre de choses. Où en fait, ça peut être des freins. Parce que dans l'émergence de ce genre de lieu, on est quand même sur des modèles qui essaient de sensibiliser à d'autres mobilités. Et donc du coup, faut réfléchir avec d'autres automatismes. Donc il y a quand même des freins de ce type-là. Et après, il y a aussi l'occupation d'espace. Donc il y a beaucoup de tiers-lieux où, par exemple, c'est dans des espaces sur du court terme. Donc ça veut dire que c'est du tiers-lieu éphémère. On construit un projet pendant X années et après, on sait que voilà, ça va disparaître. Là, le but, c'était, nous, dans notre cas, de sécuriser, parce que c'est quand même notre projet de vie. Donc c'est pas. Donc on voulait vraiment s'investir sur du long terme. On a eu la chance de trouver cet espace-là et je pense que je pense à d'autres tiers-lieux où c'était pas le cas. Et après les freins, après ça dépend comment on communique et comment on s'intègre dans le territoire, parce que le but c'est pas d'écraser un tiers-lieu par rapport à l'autre, mais c'est vraiment de se dire plus on est mieux c'est. Et le Clermont-Ferrand est assez grand, la métropole aussi, donc plus on aura dans les quartiers, plus ça sera chouette.
Merci Laura Bossé.
Merci à vous.
Je rappelle que vous êtes l'initiatrice de ce projet avec Jonathan Biancolin.
Merci Souila Bouab pour cette interview. Dans quelques instants, on retrouve la journaliste Alice Coffin.
Le chantier.
Tous les vendredis soirs à 20h, Christophe Crenel réveille le lion dans le moteur sur le chantier.
Une heure de son frais, de la liberté, toute l'actu musicale, mais aussi quelques coups de folie et de l'exploration, c'est Magic Bolide. Oui, je vous attends ce vendredi à 20h pour votre rendez-vous musical sur le chantier, avec ma tenue de pilote de course et moult surprises pour vos oreilles curieuses. A très vite dans Magic Bolide.
Magic Bolide, avec Christophe Crenel, tous les vendredis à 20h sur le chantier.
Le chantier.
Les voix nouvelles.
8h30, c'est l'heure de retrouver notre deuxième invité de la matinale, Tiffaine Crézet. Aujourd'hui, vous êtes aux côtés de Alice Coffin.
Bonjour Alice Coffin.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, militante féministe et LGBT. Vous avez cofondé l'Association des journalistes LGBT. Vous êtes activiste au sein du collectif féministe La Barbe et vous êtes élue écologiste à la mairie de Paris. Votre livre Le génie lesbien est paru aux éditions Grasset à l'automne 2020. Entre récits intimes et essais politiques, vous y tentez de comprendre pourquoi, 70 ans après la publication du Deuxième Sexe, le constat énoncé par Simone de Beauvoir, « Le neutre, c'est l'homme », est toujours d'actualité. Vous y évoquez votre activisme, la libération de la parole des femmes après MeToo, vous interrogez la difficulté de sortir du placard et vous consacrez une grande partie de votre essai à démontrer les mécanismes médiatiques qui invisibilisent les lesbiennes, notamment en raison de cette sacro-sainte règle de la neutralité journalistique, et vous comparez cela avec l'exemple américain que vous avez longuement étudié et dont votre livre est en quelque sorte le fruit. Là-bas, aux États-Unis, nombre de journalistes revendiquent d'où ils viennent, qui ils sont, leur identité. Comment expliquer cette différence de taille de part et d'autre de l'Atlantique dans l'exercice journalistique ?
Alors oui, c'est des différences il ne faut pas non plus complètement tout généraliser, puisqu'il y a des expériences intéressantes qui sont des pratiques journalistiques intéressantes en France et d'autres qui sont assez dommageables aux États-Unis. Mais il y a quand même un substrat culturel dans la façon d'aborder l'exercice journalistique en France et ailleurs, et notamment aux États-Unis, qu'il est intéressant d'observer. C'est ce que je fais dans le livre. Je pense que le substrat journalistique français, il est les présupposés qui organisent un peu la façon dont travaillent les journalistes dans la rédaction. Il n'est pas délié de ce qui se passe dans l'ensemble de la société française. Il fait écho à la façon dont la politique, par exemple, s'organise en France, et notamment la culture aussi, et le fait qu'on a une volonté très forte culturellement en France d'avoir une notion de ce qui pourrait être qualifié comme le neutre. Donc c'est ce que je développe, mais le neutre, ça va pouvoir se développer dans le format politique sous forme de tout ce qu'on peut mettre sous le terme de citoyen, d'universel. La France s'est construite beaucoup autour de cet idéal. Hein. En gros, ce qui tendrait à penser qu'on peut imaginer l'ensemble de la population sous la forme d'un citoyen, je le dis volontairement au masculin, qui serait un peu abstractisé comme ça et qui existerait en soi et qui correspondrait à toutes celles et tous ceux qui vivent en France, quel que soit leur vécu, leur situation particulière. Alors ça peut avoir quelque chose de très intéressant hein, comme idéal, mais c'est vrai que ça vient se heurter à certaines réalités et qu'en tout cas en 2021, je pense que là c'est intéressant de les questionner, plus particulièrement dans le journalisme. Comment ça s'exerce ? C'est que cette notion d'abstraction un peu et de neutre, elle vient rencontrer la notion de très importante en journalisme et très enseignée dans les écoles de journalisme, d'objectivité. Et donc quand vous avez à la fois cette prédominance, cette imposition de penser les choses comme neutre, comme objectif, si on veut faire du bon journalisme, c'est parfois très compliqué. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai vécu pendant mes longues années en tant que journaliste dans une rédaction généraliste, en l'occurrence celle de 20 minutes, mais ça aurait été pareil ailleurs. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on présuppose d'abord que le neutre, c'est bien, que la neutralité, c'est positif. Et ça, c'est quelque chose de très répandu, même dans l'ensemble de la population. Quand vous demandez c'est quoi un bon journaliste, on pourrait facilement vous répondre c'est quelqu'un d'objectif ou de neutre. Alors déjà, moi, je m'inscris tout à fait en faux là-dessus, parce que je pense que les personnes engager les personnes concernées par leur sujet et qui sont reliées à leur sujet font tout aussi bien de l'excellent journalisme que celles et ceux qui auraient davantage de recul ou pas partie liée au sujet. Et puis surtout, je pense que la neutralité, l'objectivité, ça n'existe pas en fait. C'est vraiment qui peut prétendre n'avoir aucun biais. Moi, je sais pas, enfin bravo, s'il y a des personnes qui vraiment peuvent penser aborder une part du réel sans du tout que leur vécu, leur situation géographique, personnelle, sentimentale, économique n'influe. Évidemment que si, bien sûr que ça on a des biais et qu'au contraire, c'est donc important de les reconnaître pour commencer à faire du bon journalisme. Donc ça, c'est le premier truc, je pense que ça n'existe pas. Mais en plus, ce qui est encore plus dangereux, c'est que non seulement ça, mais sur un truc qui est un peu inexistant, on a décrété dans les rédactions que, en fait, uniquement certaines personnes pouvaient avoir s'arroger le monopole de la neutralité, alors que d'autres étaient systématiquement vues comme des personnes biaisées. Bon, en l'occurrence, si on veut savoir un peu à quoi ressembleraient ces personnes-là, c'est vrai que très souvent, d'abord, c'est mieux d'être un homme. Si on veut prétendre à la neutralité, ça c'est effectivement ce que dit Simone de Beauvoir dès l'introduction du deuxième sexe, en disant le neutre, c'est l'homme. Après, c'est mieux aussi d'être une personne blanche, si on veut prétendre à la neutralité, incarner la norme, etc. Donc il y a un ensemble de critères, en fait, comme ça, et on pourrait en ajouter pas mal, qui forgent ce que seraient les personnes neutres, et on se rend compte que c'est une vaste fumisterie, et que ça vient juste à pouvoir renforcer le pouvoir de certains, leur capacité à dire des récits qui seraient complètement dénués de point de vue ou autre, contrairement à d'autres qui, elles et eux, seraient biaisés.
Et du coup, en réaction, Alice Coffin, vous écrivez « Être lesbienne fait de moi une meilleure journaliste » et vous répondez par ce que vous appelez le journalitantisme, ce journalisme militant.
Oui, parce que c'est intéressant que ça soit justement la neutralité, l'objectivité qui soit posée comme béaba du journaliste, parce que c'est pas du tout réfléchi. Parce qu'en fait, ça vient aussi en contradiction avec d'autres principes qui sont pourtant aussi, qui sont enseignés également, qui sont qu'une personne qui va pratiquer le journalisme correctement est une personne qui aura de bonnes sources, un bon carnet d'adresses, une bonne connaissance du sujet. Et je trouve que quand on est concerné par un sujet, en l'occurrence, moi, je pense que sur des sujets comme la PMA, par exemple, ou des sujets qui auraient trait aux lesbiennes, évidemment, j'ai une expérience de nombreuses années, une richesse de lecture, un carnet d'adresses très fourni pour savoir à qui m'adresser. Donc, en théorie, ça devrait aussi faire de moi une très bonne journaliste pour pouvoir parler de ces questions-là. Et sur d'autres sujets, ça ne ferait pas nombre d'implis. C'est-à-dire qu'on dirait, oui, bien sûr, elle maîtrise très bien son sujet, elle le connaît très bien, c'est une spécialiste, en gros. Mais ce terme de spécialiste-là, ce terme d'expert, ou le terme d'expertise, quand on vient à parler de sujets, par exemple, comme le féminisme, tout d'un coup, ça se renverse dans les rédactions et dans les directions des rédactions. Tout à coup, au contraire, ça devient quelque chose qu'il faudrait éviter. Et vous n'imaginez pas le nombre de journalistes qui sont des femmes, des féministes, par ailleurs, à qui on a dit, dans tes grandes rédactions, « Non, mais tu veux pas, tu traites beaucoup de sujets qui ont trait aux droits des femmes. Tu sais, tu devrais un peu te diversifier, ne pas trop te spécialiser là-dedans, ça t'enferme, attention à ne pas tomber dans une niche comme ça. » Et ça arrive aussi très fréquemment sur d'autres sujets liés aux minorités, c'est tout d'un coup cette exigence de connaissance et d'expertise, elle se renverse, et là c'est plus du tout possible, et ça devient, ça joue en défaveur des journalistes féministes, ou des journalistes qui voudraient traiter des droits des femmes, des journalistes militantes lesbiennes qui voudraient traiter des sujets politiques liés aux lesbiennes, tout d'un coup ça se renverse, et évidemment l'explication pour ça, mais elle est politique, elle est que, en fait, on est, c'est assez simple dans le déroulé, c'est qu'il y a une volonté de confiscation ou d'invisibilisation de cette parole-là pour que le récit de l'information qui soit fait sur les sujets du féminisme ou des droits de certaines minorités, il soit encore tenu le privilège de personnes qui sont plutôt en général opposées à tout cela. Et quand je dis, moi, être lesbienne a fait de moi une bonne journaliste, alors c'est un peu plus large que ça, c'est parce que je pense que un vécu de personne lesbienne, enfin comme je suis, c'est vivre comme ça, c'est occuper un poste d'observation privilégié de la société, parce qu'au carrefour de beaucoup de dysfonctionnements de cette société-là. C'est-à-dire que moi, je peux, rien que par ma vie, en me promenant dans la rue, en découvrant le monde professionnel, en étant une élue lesbienne, je vais recevoir beaucoup de d'attaque, de charge, être à la croisée de nombreux lieux de discrimination qui me racontent comment fonctionne cette société-là. Du coup, ça fait de moi une observatrice privilégiée. Ça m'en dit plus sur le monde que si je le parcourais comme par exemple un homme blanc, riche, qui serait soumis à beaucoup moins de discrimination, donc qui pourrait moins s'apercevoir de ses propres yeux, de son propre vécu, de toutes ces discriminations-là. Donc, et en tant que journaliste, c'est bien quand même d'avoir un accès privilégié, serait-ce par son corps et sa personne, aux dysfonctionnements et aux oppressions qui peuvent régner dans la société. Et puis quand je dis aussi être lesbienne a fait de moi une bonne journaliste, je crois que c'est parce que pour moi, le mot lesbienne est un mot politique et je l'entends pas sans un engagement aussi rendu inévitable, en fait. Hein, vu la société dans laquelle on vit, rien que le fait de se dire lesbienne, moi, ça me pose comme une personne en opposition avec certains fondements de la société. Et donc, qui dit être en opposition, en situation de personne un peu... enfin même beaucoup discriminés, oppressés, ça induit le développement de certaines facultés, d'une réaction, de se renseigner, de faire tout un travail qui est très proche de celui du journalisme pour comprendre pourquoi c'est comme ça, pourquoi on en est dans cette situation-là.
Et tout le monde ne s'engage pas comme vous dans le militantisme, car vous l'évoquez dans votre livre « Le génie lesbien », il y a un terme qui fait frémir personnalité et journaliste, c'est celui de communauté, et vous listez Alice Coffin de nombreuses personnalités qui, après avoir fait leur coming out, se défendent immédiatement d'être un porte-drapeau d'une communauté. Qu'est-ce qui dérange dans cette notion ?
Le terme communauté, il est aussi très spécifique dans son acceptation française. Hein. C'est-à-dire que dans d'autres pays, ça ne fait pas pousser des grands cris quand on dit le mot communauté. En France, le mot communauté fait office d'épouvantail, comme si ça allait menacer les fondements de la République. Ce que je pense sont des sottises, hein, vraiment. Mais ça a une influence directe sur la possibilité pour certaines personnes qui sont membres de minorités ou qui pourraient être des communautés de vivre de manière pleinement affichée, épanouie, parce que, et on le remarque, c'est pas du tout anodin qu'en France, on ait un nombre de personnalités lesbiennes ou gays ayant fait leur coming out bien plus faible que dans d'autres démocraties. C'est la placardologie, en fait, la placardologie, c'est-à-dire tout le discours qui conduit ces personnalités-là à préférer rester au placard, c'est-à-dire, le contraire, c'est faire son coming out, sortir du placard, à cacher, en fait, qu'elles sont gays, et à le cacher publiquement, parce que souvent, c'est des personnes qui peuvent tout à fait en parler dans leur entourage, et d'ailleurs, moi, c'est comme ça que je sais qu'il y en a beaucoup, sinon je ne saurais pas, c'est-à-dire qu'en tant que journaliste, ou en tant... Je sais, voilà, que ces personnes-là sont gays ou lesbiennes. Évidemment, je ne le dirai pas contre leur volonté, mais c'est en revanche, ce qui m'intéresse, c'est pourquoi elles ne le disent pas. Et je pense que ça a tout à fait à voir avec certains fondamentaux de la culture française, où il n'est pas bien vu. C'est même délégitimant, ça vous disqualifie en tant que personnalité publique de vous revendiquer comme membre d'autre chose que la République française, la citoyenneté française. Et ces personnes-là, parfois elles peuvent manquer un peu de courage et faire preuve d'égoïsme, de pas aussi dans leur position privilégiée. Mais c'est leur choix, ça. C'est des responsabilités individuelles. Je peux en penser des choses personnellement, mais publiquement, j'ai rien à redire là-dessus. Mais c'est plus ce que ça nous raconte. Et je pense qu'elles le ressentent aussi. Elles savent que ça sera sans doute plus compliqué pour elles ensuite. Et c'est ça qui est très problématique dans la culture française, et qui est tout à fait alimentée par le discours journalistique, par les médias, par leur façon de verrouiller les portes du placard, en ce que y a beaucoup de journalistes, en fait, c'est une chose de ne pas le dire dans des articles ou autres, la personne ne souhaite pas du tout le dire, mais bien des fois, en fait, c'est des personnalités où on le sait, qui n'ont pas demandé à ce que ça ne soit pas dit, mais les journalistes, d'eux-mêmes, pensent que, en fait, c'est un peu sale de parler d'homosexualité, ça se fait pas, ça serait les mettre en difficulté, donc dissimulent. En cela, les médias, ils participent de cette placardologie, et ils empêchent, parce que, la fin des fins, pourquoi c'est important, c'est parce que plus on aura de personnalités qui assument, plus ça fera reculer aussi les discriminations, d'une part. Et puis surtout, l'important, c'est que c'est pour les modèles, les références, les espoirs et possibilités de vie que ça peut donner, notamment aux plus jeunes. C'est ça qui est important aussi.
Merci beaucoup, Alice Coffin, d'avoir répondu aux questions du chantier ce matin. Et bonne journée.
Merci mille fois pour l'entretien.
Alice Coffin qui répondait aux questions de Tiffaine Crézet. La suite avec La Femme, et derrière La Femme, il y a Marlon Manier et Sacha Gott qui viennent joyeusement foutre le bordel sur le chantier. La Femme qui est venue foutre le bordel sur les ondes du chantier ce matin. Ils seront samedi soir sur la scène de l'Europavox. Et d'ailleurs, pour notre invité culture, nous recevons Léa Zelenkoskis, chargée de communication du festival Elle répond aux questions de Alexandra Chivanga.
À Clermont-Ferrand. Et pour cette occasion, nous recevons Léa Zelenkoskis, qui est chargée de la communication du festival de la musique de la coopérative de mai. Bonjour Léa.
Bonjour.
Tout d'abord, comment se déroulera le festival ici à Clermont-Ferrand?
Alors, le festival déroulera au stade Marcel Michelin du 25 au 27 juin. Une organisation un peu particulière, parce qu'on est soumis à pas mal de contraintes sanitaires. Donc, il y a plein de petites choses qui sont un peu différentes des années précédentes.
Comment vous êtes-vous organisé pendant cette période de crise sanitaire?
Alors, comment on s'est organisé? On s'est surtout adapté. Le maître mot de cette année, c'était réactivité. C'est-à-dire qu'on a essayé de toujours suivre les annonces du gouvernement et de répondre au mieux à tout ça. Voilà.
Aujourd'hui, c'est la 15e édition du festival au stade Marcel Michelin, un lieu emblématique de la ville de Clermont-Ferrand. Quels sont les enjeux?
Les enjeux, cette année, sont encore plus importants que les années précédentes. C'est-à-dire que l'année dernière, on a été obligé d'annuler l'édition du festival pour cause de pandémie. Donc cette année, c'est notre grand retour. Donc c'est hyper important pour nous de pouvoir retrouver les artistes, le public. Comme je le disais tout à l'heure, c'est une édition qui est un peu contrainte dans son organisation, plein de raisons un peu différentes. Je ne sais pas s'il faut que je développe tout de suite tout ce qui est le côté un peu pratique de ce festival. Et on en reparlera un petit peu plus tard. Mais donc les enjeux sont hyper importants parce que c'est notre grand retour. Ça va être une des premières manifestations de cette ampleur sur le territoire. On est très heureux de pouvoir maintenir cette édition cette année.
Quels aspects positifs ces contraintes très strictes apportent-elles?
Bonne question. Des aspects positifs, je ne sais pas. C'est vrai que c'est un petit peu difficile. Alors cette année déjà, pour refaire un petit peu le point sur l'organisation. Contrairement aux années précédentes, on sera obligé de présenter un pass sanitaire à l'entrée du festival. Alors le pass sanitaire, qu'est-ce que c'est? Ça correspond à soit un test PCR antigénique négatif de moins de 48 heures, soit un certificat de vaccination avec un schéma vaccinal complet, soit un certificat de rétablissement. L'année, pour venir au festival, il sera obligatoire de présenter ce pass sanitaire. Autre règle un petit peu différente de d'habitude, le port du masque sera obligatoire dans l'enceinte du stade. Et on sera sur un placement assis numéroté, donc dans les gradins, sur la pelouse du stade Marcel Michelin. Ce qui n'est pas le cas d'habitude, parce que nous, on est vraiment un festival de musique debout. Et habituellement, on est sur la place du 1er mai. Donc tout ça fait que forcément, on est dans un contexte qui est un peu différent des éditions précédentes. Le positif de ces contraintes, c'est un peu difficile pour moi de trouver. Après, moi, je trouve ça déjà... Enfin, on trouve ça déjà super de pouvoir organiser le festival. Et finalement, ce passe sanitaire, ben, c'est pour nous la possibilité de maintenir notre édition dans le contexte qui est le nôtre.
Avec l'obligation d'être assise pendant le concert, par quels moyens pouvons-nous apporter de la chaleur humaine et de l'effervescence pendant un festival?
Certes, le placement sera assis numéroté, mais par contre, on aura le droit quand même de se lever devant son siège et de danser, de bouger. Enfin, on n'est pas contraint, collé à son siège pendant tout le festival. Et puis, s'il y aura une distanciation, la distanciation sera entre groupes. C'est-à-dire qu'on peut être un groupe de maximum 6 personnes et avoir un siège vide entre chaque groupe. Donc on sera quand même avec ses proches, on peut quand même être avec ses amis. Et à côté de tout ça, donc il y aura les concerts, il y aura aussi un village, food truck, avec des bars. Enfin, la convivialité sera là, quoi qu'il en soit. Et puis on espère que l'esprit de fête sera là lui aussi.
Le nombre étant limité, quel est le jauge par jour pendant les festivals?
Cette année, on est limité à une jauge maximum de 5000 personnes par jour. 5000 personnes par jour, ce qui fait qu'on est contraint en fait au pass sanitaire. Le pass sanitaire, il est obligatoire à partir de 1000 personnes.
Pourquoi proposez-vous des passes à la journée au lieu d'un pass sur 3 jours?
Alors c'est vrai qu'habituellement, on avait un pass, alors on avait des passes jour, des passes week-end et des passes 3 jours. Cette année, on a fait le choix de ne proposer que des passes jour pour faciliter un peu le suivi de la billetterie avec les contraintes qui sont les nôtres cette année, tout simplement.
Vous proposez plusieurs conditions sanitaires pour le festival. Comment allez-vous vous organiser pour le contrôler?
Alors toute l'équipe sera mobilisée pour contrôler tout ça. On a prévu plein de choses. Il y aura de la signalétique dédiée pour rappeler les règles régulièrement aux personnes, aux spectateurs, spectatrices. On aura toute une équipe qui sera dédiée à ça, des médiateurs, médiatrices. On aura un point info sur le festival. On aura des gens qui seront là pour placer les gens dans le stade. On va faire notre maximum pour encadrer le public au mieux, qu'il soit le plus à l'aise possible et que ce soit pas trop contraignant. Parce que le but, c'est quand même, encore une fois, de se retrouver et de faire la fête. Donc,
Quels sont les artistes à n'y pas manquer, selon vous, le temps fort du festival?
Alors j'ai envie de dire, il faut voir tous les artistes parce qu'ils sont tous bien. Les temps forts, ce qui est assez chouette, c'est que vendredi, la tête d'affiche, c'est IAM. Et pour la petite histoire, IAM, c'est le dernier concert en fait, qu'on a organisé à la coopérative de mai avant de fermer pour la pandémie. C'était à l'occasion de notre anniversaire, les 20 ans de la salle. Et c'est IAM en fait, qui a un peu clos notre saison un peu avant l'heure. C'était un super concert, c'était vraiment génial. Et on est super contents de les retrouver là, parce que c'est un peu symbolique en fait, qu'ils reviennent pour le festival.
Vous êtes-vous rapproché d'autres organisateurs de festivals pour préparer cette édition?
Oui, on échange tout le temps ensemble, en fait. Entre organisateurs de festivals, de salles de concerts, on parle. Il y a des fédérations, des syndicats. Donc, on échange toujours, en fait, pour savoir comment on fait l'un, l'autre, pour s'adapter. C'est essentiel. Et à savoir aussi, jeudi 24, là, cette semaine, on va recevoir l'Assemblée Générale de la Fédération de Concerts, qui est une fédération de festivals, qui regroupe plein de festivals en France, en Belgique, Luxembourg également. Et en fait, on va recevoir tout ce beau monde au stade Marcel Michelin pour l'Assemblée Générale. Donc il y aura les Vieilles Charrues, les Nuits Botaniques, ils seront tous là. Et on va forcément parler aussi un peu de ce contexte qui est le nôtre actuellement.
Merci Léa Zelenkowskis d'avoir répondu aux questions du chantier. Je rappelle que le festival Europa Voice a lieu du 25 au 27 juin à Clermont-Ferrand, au stade Marcel Michelin.
Merci beaucoup.
Merci Alexandra Chiwanga pour cette interview. Alors pour se rendre au festival, le pass sanitaire est obligatoire et on vous rappelle que place Jobe, de 13 à 19h, des tests PCR sont organisés gratuitement et ce jusqu'à samedi. Vous avez le résultat dès le lendemain matin. La suite dans la matinale, c'est l'impératrice qui arrive dans quelques instants.
Le chantier.
Le chantier présente la mort en Arabie. Récit sonore de la première expédition scientifique au Yémen, janvier 1761.
Peu après mon arrivée à Copenhague, deux membres rejoignent l'expédition. Un dessinateur, pour faire des croquis précis, et un médecin, pour assister Forgecol.
Le but de cette expédition, un pays inconnu, qu'à l'époque on nomme encore l'Arabie heureuse.
Nous sommes au large du détroit de Gibraltar. Nous avons supporté un hiver de tempête dans les mers du Nord. Nous voilà désormais dans le printemps méditerranéen, vent tiède du Sud et journées ensoleillées.
La mort en Arabie, par Théophane Berthuis. Une épopée sonore en 12 épisodes. Tous les jours à 17h30 sur Le Chantier.
Le Chantier.
Les voix nouvelles.
Là-haut, titre planant du groupe Electrofunk, l'Impératrice, pour terminer cette matinale. L'Impératrice se produira dimanche à l'EuropaVox. Et sinon, la suite sur Le Chantier, eh bien, à partir de midi, retrouvez Christophe Rossignol, sans oublier Les Cartons, notre programme autour de l'entrepreneuriat culturel qui revient dès 13h. Et ce soir, place aux émissions musicales avec Magic Bolide. Bonne journée à l'écoute du Chantier.